3-3. Le dedans de l'Élysée. Dans la matinée, le docteur Ivan rencontra le docteur Conneau. Ils se connaissaient, ils causèrent. Ivan était de la gauche, Conneau était de l'Élysée. Ivan sut par Conneau, sur ce qui s'était passé dans la nuit à l'Élysée, des détails qu'il nous transmit. Un des détails est celui-ci. Un décret inexorable avait été rendu et il allait être affiché. Ce décret enjoignait à tous la soumission au coup d'État. Saint-Arnaud, qui, comme ministre de la guerre, devait signer le décret, l'avait rédigé. Arrivé au dernier paragraphe ainsi conçu, « Quiconque sera surpris construisant une barricade, placardant une affiche des ex-représentants ou la lisant, sera... » Ici, Saint-Arnaud s'était arrêté. Morny avait haussé les épaules, lui avait arraché la plume des mains et avait écrit « Fusillé ». D'autres choses avaient été décidées, mais on ne les connaissait pas. Divers renseignements vinrent s'ajouter à cela. Un garde national nommé Boyer de Dôle avait été de garde du 3 au 4 à l'Élysée. Les croisées du cabinet de Louis Bonaparte, qui étaient au rez-de-chaussée, avaient été toute la nuit éclairées. Dans le salon d'à côté, il y avait conseil de guerre. De la guérite, où il était de faction, Boyer voyait se dessiner sur les vitres des profils noirs et des ombres gesticulantes qui étaient Magnan, Saint-Arnaud, Persigny, Fleury, les spectres du crime. Corte, le général des cuirassiers, avait été mandé, ainsi que Carlet, lequel commandait la division qui travailla le plus le lendemain, 4. De minuit à 3 heures du matin, des généraux et des colonels n'avaient fait qu'aller et venir. Il était même venu de simples capitaines. Vers 4 heures, quelques voitures étaient arrivées, avec des femmes. L'orgie ne fut jamais absente de ce forfait. Le boudoir dans les palais donnait la réplique au lupanar dans les casernes. La cour était pleine de lanciers qui tenaient en main les chevaux des généraux, des libérants. Deux des femmes qui vinrent là cette nuit-là appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Il y a de ces silhouettes sur les seconds plans. Ces femmes influèrent sur de malheureux généraux, toutes deux du meilleur monde. L'une était la marquise de, laquelle avait eu cette aventure de devenir amoureuse de son mari après l'avoir trompée. Elle reconnut que l'amant ne valait pas le mari. Cela arrive. Elle était la fille du plus fantasque des maréchaux de France. Et de cette jolie comtesse de, à laquelle M. de Chateaubriand, après une nuit d'amour, fit ce quatrain qu'on peut publier aujourd'hui, tous étant morts. Des rayons du matin l'horizon se colore, le jour vient éclairer notre tendre entretien, mais est-il un sourire aux lèvres de l'aurore aussi doux que le tien? Le sourire de la fille était aussi doux que celui de la mère, et plus fatal. L'autre était Madame K, russe, blanche, grande, blonde, gaie, mêlée à la diplomatie obscure, ayant et montrant un coffret plein de lettres d'amour du comte Molé, un peu espionne, absolument charmante et terrible. Les précautions prises en cas étaient visibles, même du dehors. Depuis la veille, on apercevait, des fenêtres des maisons voisines, dans la cour de l'Élysée, deux chaises de poste attelées, prêtes à partir, postillons en selle. Il y avait aux écuries de l'Élysée rue Montaigne d'autres voitures attelées et des chevaux sellés et bridés. Louis Bonaparte n'avait pas dormi. Dans la nuit, il avait donné des ordres mystérieux. De là, le matin, sur cette face pâle, une sorte de sérénité épouvantable. Le crime tranquillisé, chose inquiétante. Dans la matinée même, il avait presque ri. Morny était venu dans son cabinet. Louis Bonaparte, ayant eu de la fièvre, avait fait appeler Conneau, qui assista à la conversation. On croit les gens sûrs. Ils écoutent, pourtant. Morny apportait des rapports de police. 12 ouvriers de l'imprimerie nationale avaient, dans la nuit du 2, refusé d'imprimer les décrets et les proclamations. On les avait immédiatement arrêtés. le colonel Forestier était arrêté. On l'avait transféré au fort de Bicêtre avec Crosset Spinelli, Génilier, Hippolyte Magin, écrivain de talent et de courage, Goudounech, chef d'institution, et Polino. Ce dernier nom avait frappé Louis Bonaparte. « Qu'est-ce que ce Polino ?» Morny avait répondu « Un ancien officier au service du Shah de Perse. » Et il avait ajouté « Mélange de Don Quichotte et de Sancho Panza. » On avait mis ses prisonniers dans la casemate numéro 6. Nouvelle question de Louis Bonaparte. « Qu'est-ce que c'est que ces casemates ?» Et Marny avait répondu « Des caves, sans air ni jour. 24 mètres de long, 8 de large, 5 de haut. Murs ruisselants, pavés humides. » Louis Bonaparte avait demandé « On leur donne des bottes de paille ?» Et Morny avait dit « Pas encore, on verra plus tard. » Il avait ajouté « Ceux qu'on déportera sont à Bicêtre, ceux qu'on fusillera sont à Ivry. » Louis Bonaparte s'était enquis des précautions prises. Morny l'avait complètement renseigné. Qu'on avait mis une garde dans tous les clochers, qu'on avait mis le scellé sur toutes les presses, qu'on avait mis sous clé tous les tambours de la garde nationale, qu'on n'avait donc à craindre ni une proclamation sortant d'une imprimerie, ni le rappel sortant d'une mairie, ni le tocsin sortant d'un clocher. Louis Bonaparte avait demandé si toutes les batteries étaient bien au complet, chaque batterie devant être composée de 4 pièces et de 2 obusiers. Il avait expressément recommandé de n'employer que des pièces de 8 et des obusiers du diamètre de 16 centimètres. « C'est vrai, » avait dit Morny, qui était dans le secret, « tout cela aura à travailler. » Puis Morny avait parlé de Mazas, qu'il y avait 600 hommes de garde républicaine dans la cour, tous hommes choisis, et qui, attaqués, se défendraient jusqu'à la dernière extrémité. Que les soldats accueillaient les représentants arrêtés avec des éclats de rire, et qu'ils étaient venus regarder, tiers, sous le nez, que les officiers éloignaient les soldats, mais avec ménagement et une sorte de respect. Que 3 prisonniers étaient au grand secret, Grépeau, Nadeau, et un membre du comité socialiste, Arsène Meunier. Celui-ci occupait le numéro 32 de la 6e division. À côté, au numéro 30, il y avait un représentant de la droite, qui ne faisait que crier et gémir, ce qui faisait rire Arsène Meunier, et ce qui fit rire Louis Bonaparte. Autre détail. Quand le fiacre, amenant M. Baze, était entré dans la cour de Mazas, il y avait eu un choc contre la porte, et la lanterne du fiacre était tombée à terre et s'était brisée. Le cocher, consterné de l'avarie, se lamentait. « Qui paiera cela ? » criait-il. Un des agents qui était dans la voiture avec le questeur prisonnier avait dit au cocher « Soyez tranquille. » Parlez aux brigadiers. Dans les affaires comme celle-ci, quand il y a de la casse, c'est le gouvernement qui paie. » Et Bonaparte avait souri et dit dans sa moustache « C'est juste. » Un autre récit de Morny l'amusa encore. C'était la colère de Cavaignac en entrant dans la cellule de Mazas. Il y a, à la porte de chaque cellule, un trou appelé lunette, par où les prisonniers sont guettés à leur insu. Les gardiens avaient observé Cavaignac. Il avait commencé par se promener, les bras croisés. Puis, l'espace étant trop restreint, il s'était assis sur l'escabeau de la cellule. Ces escabeaux sont d'étroites planchettes, portées sur 3 pieds convergents, qui percent le plateau au centre et y font une saillie, de sorte qu'on y est mal assis. Cavaignac s'était dressé et avait d'un coup de pied envoyé l'escabeau à l'autre bout de la cellule. Puis, furieux et jurant, il avait cassé d'un coup de poing la petite table de 15 pouces sur 12 qui est, avec l'escabeau, le seul meuble du cachot. Ce coup de pied et ce coup de poing égayaient Louis Bonaparte. « Et Maupas a toujours peur, » dit Morny. Ceci fit rire encore Bonaparte. Morny, son rapport fait, s'en alla. Louis Bonaparte entra dans une chambre voisine. Une femme l'y attendait. Il paraît qu'elle venait supplier pour quelqu'un. Le docteur Conneau entendit ces paroles expressives. « Madame, je vous passe vos amours, passez-moi mes haines. » 3-4. Les familiers. Monsieur Mérimée était naturellement vil, il ne faut pas lui en vouloir. Quant à M. de Morny, c'est autre chose, il valait mieux. Il y avait en lui du brigand. M. de Morny était courageux. Brigandage oblige. M. Mérimée s'est donné à tort pour un des confidents du coup d'État. Il n'y avait pourtant pas de quoi se vanter. Mais la vérité, c'est que M. Mérimée n'était confident de rien. Louis Bonaparte n'avait pas de confiance inutile. Ajoutons qu'il est peu probable, malgré quelques indices contraires, que M. Mérimée fût à l'époque du 2 décembre en relation directe avec Louis Bonaparte. Cela ne vint que plus tard. Mérimée d'abord ne connut que Morny. Morny et Mérimée furent tous deux de l'intimité de l'Élysée, mais différemment. On peut croire Morny et non Mérimée. Morny était dans les secrets, Mérimée dans les petits. Les cours d'amour étaient sa vocation. Les familiers de l'Élysée étaient de deux sortes, les affidés et les courtisans. Le premier des affidés, c'était Morny. Le premier ou le dernier des courtisans, c'était Mérimée. Voici ce qui fit la fortune de M. Mérimée. Les crimes ne sont beaux que dans le premier moment. Ils se fanent vite. Ce genre de succès manque de durée. Il importe d'y ajouter promptement quelque chose. Il fallait à l'Élysée un ornement littéraire. Un peu d'académie ne messied pas à une caverne. M. Mérimée était disponible. Il était dans sa destinée de signer le fou de l'impératrice. Madame de Montyrot le présenta à Louis Bonaparte qui l'agréa et qui compléta sa cour par ce plat écrivain de talent. Cette cour était une collection. Étagères de bassesse, ménagerie de reptiles, herbiers de poison. Outre les affidés qui étaient pour le service et les courtisans qui étaient pour l'ornement, il y avait les auxiliaires. Certaines occasions voulaient du renfort. Quelquefois c'était des femmes, l'escadron volant. Quelquefois c'était des hommes, Saint-Arnaud, Espinasse, Saint-Georges, Maupas. Quelquefois ni hommes ni femmes, le marquis de C. Cet entourage était remarquable. Disons-en quelques mots. Il y avait Vieillard, le précepteur, athée de la nuance catholique, bon joueur de billard. Vieillard était un narrateur. Il racontait en souriant ceci. Vers la fin de 1807, la reine Hortense, qui habitait volontiers Paris, écrivit au roi Louis qu'elle ne pouvait être plus longtemps sans le voir, qu'elle ne pouvait se passer de lui, qu'elle allait arriver à La Haye. Le roi dit « Elle est grosse ». Il fit venir son ministre Van Maen, lui montra la lettre de la reine et ajouta « Elle va arriver, c'est bien. Nos deux chambres communiquent par une porte. La reine la trouvera murée. » Louis prenait son manteau royal au sérieux, car il s'écria « Le manteau d'un roi ne sera pas la couverture d'une catin. » Le ministre Van Maanen, terrifié, manda la chose à l'empereur. L'empereur se mit en colère, non contre Hortense, mais contre Louis. Nonobstant, Louis tint bon. La porte ne fut pas murée, mais sa majesté le fut. Et quand la reine vint, il lui tourna le dos. Cela n'empêcha pas Napoléon III de naître. Un nombre convenable de coups de canon salua cette naissance. Telle était l'histoire que, dans l'été de 1840, à Saint-Leu-Taverny, dans la maison dite La Terrasse, devant témoins, dont était Ferdinand B., marquis de La Haye, camarade d'enfance de l'auteur de ce livre, racontait M. Vieillard, bonapartiste ironique, dévoué sceptique. Outre Vieillard, il y avait Vaudrey, que Louis Bonaparte fit général en même temps qu'Espinasse. En cas, un colonel de complot, peut-être un général de guet-apens. Il y avait Fialin, le caporal-duc. Il y avait Fleury, destiné à la gloire de voyager à côté du tsar, sur une fesse. Il y avait Lacrosse, libéral passé clérical, un de ces conservateurs qui poussent l'ordre jusqu'à l'embaumement et la conservation jusqu'à la momie. Plus tard, sénateur. Il y avait l'Arabie, ami de Lacrosse, tout aussi domestique et non moins sénateur. Il y avait le chanoine Coquereau, l'abbé de la Belle Poule. On sait la réponse qu'il fit à une princesse lui demandant « Qu'est-ce que c'est que l'Élysée ? » il paraît qu'on peut dire à une princesse ce qu'on ne dirait pas à une femme. Il y avait Hippolyte Fortoul, de l'espèce des grimpeurs, ayant la valeur d'un Gustave Planche ou d'un Philarète Châle quelconque, Grimaud littéraire devenu ministre de la Marine, ce qui fit dire à Béranger « Ce Fortoul connaît tous les mâts, y compris le mât de Cocagne. » Il y avait des Auvergnats, deux, ils se haïssaient. L'un avait surnommé l'autre le chaudronnier mélancolique. Il y avait Sainte-Beuve, homme distingué et inférieur, ayant l'envie pardonnable à la laideur. Un grand critique comme Cousin est un grand philosophe. Il y avait Trollon, qui a eu Dupin pour procureur et que Dupin a eu pour président. Dupin, Trollon, les deux profils du masque posé sur le front de la loi. Il y avait Abatucci, une conscience qui laissait tout passer. Aujourd'hui, une rue. Il y avait l'abbé M, plus tard évêque de Nancy, lequel soulignait d'un sourire les serments de Louis Bonaparte. Il y avait les habitués d'une loge fameuse de l'opéra, Mon et Sète, mettant au service d'un prince sans scrupule le côté profond des hommes légers. Note. Montguyon. Le nom est écrit en toutes lettres dans le manuscrit. Septeuil. Le nom est écrit en toutes lettres dans le manuscrit. Fin de note. Il y avait Romieux, silhouette d'ivrogne derrière un spectre rouge. Il y avait Malitourne, pas mauvais ami, obscène et sincère. Il y avait Cuche, Cucheval. Le nom est écrit en toutes lettres dans le manuscrit. Dont le nom faisait hésiter les huissiers à la porte des salons. Il y avait Suin, homme de bon conseil pour les mauvaises actions. Il y avait le docteur Véron, lequel avait à la joue ce que les autres hommes de l'Élysée avaient au cœur. Il y avait Mocquart, ancien joli homme à la cour de Hollande. Mocquart avait des romances dans ses souvenirs. Il pouvait, par l'âge, et peut-être autrement, être le père de Louis Bonaparte. Il était avocat. Il avait eu de l'esprit vers 1829, en même temps que Romieux. Plus tard, il avait publié quelque chose, je ne sais plus quoi, qui était solennel et in quarto, et qu'il m'avait envoyé. C'était lui qui, en mai 1847, était venu, avec le prince de la Moscova, m'apporter la pétition du roi Jérôme à la Chambre des Pairs. Cette pétition demandait la rentrée en France de la famille Bonaparte, bannie. Je l'ai appuyée. Bonne action et faute que je referais encore. Il y avait Billot, une ressemblance d'orateur, divaguant avec facilité et se trompant avec autorité, réputé homme d'État. Ce qui constitue l'homme d'État, c'est une certaine médiocrité supérieure. Il y avait Lavalette, complétant Morny et Walewski. Il y avait Bacciocchi, d'autres encore. C'est sous l'inspiration de cet entourage intime que, pendant sa présidence, Louis Bonaparte, sorte de Machiavel hollandais, s'en allait ici et là à la Chambre et ailleurs, à Tours, à Ham, à Dijon, nasillant d'un air endormi des discours pleins de trahison. L'Élysée, si misérable qu'il soit, tient de la place dans le siècle. L'Élysée a engendré des catastrophes et des ridicules. On ne peut le passer sous silence. L'Élysée fut dans Paris le coin inquiétant et noir. Dans ce lieu mauvais, on était petit et redoutable. On était en famille, entre nains. On avait cette maxime, jouir. On vivait de la mort publique. Là, on respirait de la honte, et l'on se nourrissait de ce qui tue les autres. C'est là que se construisait avec art, intention, industrie et volonté, l'amoindrissement de la France. Là travaillaient, vendus, repus et complaisants, des hommes publics, lisés, prostitués. On y faisait, nous l'avons indiqué, jusqu'à de la littérature. Vieillard était un classique de 1830. Morny créait Choufleury. Louis Bonaparte était candidat à l'Académie. Lieu étrange. l'hôtel de Rambouillet s'y mêlait à la maison bancale. L'Élysée a été le laboratoire, le comptoir, le confessionnal, l'alcôve, l'antre du règne. L'Élysée prétendait gouverner tout, même les mœurs, surtout les mœurs. Il a mis le fard sur le sein des femmes, en même temps que la rougeur sur la face des hommes. Il donnait le ton à la toilette et à la musique. Il a inventé la crinoline et l'opérette. À l'Élysée, une certaine laideur était considérée comme élégance. Ce qui fait le visage fier y était raillé comme ce qui fait l'âme grande. C'est à l'Élysée qu'a été conspué l'os homini sublimé d'Édith. C'est là qu'ont été, pendant 20 ans, mises à la mode toutes les bassesses, y compris la bassesse du front. L'histoire, quelle que soit sa fierté, est condamnée à savoir que l'Élysée exista. Le côté grotesque n'empêche pas le côté tragique. Il y a là un salon qui a vu la seconde abdication, l'abdication après Waterloo. C'est à l'Élysée que Napoléon Ier a fini et que Napoléon III a commencé. C'est à l'Élysée que Dupin est apparu aux deux Napoléons, en 1815 pour abattre le grand, en 1851 pour adorer le petit. À cette dernière époque, ce lieu fut parfaitement sinistre. Il n'y resta plus une vertu. À la cour de Tibère, il y avait encore Traséas, mais autour de Louis Bonaparte, rien. On cherchait la conscience, on trouvait Baroche. On cherchait la religion, on trouvait Montalembert. 3.5. Un auxiliaire indécis. Dans cette matinée affreusement historique du 4 décembre, l'entourage observait le maître. Louis Bonaparte s'était enfermé. Mais s'enfermer, c'est déjà se révéler. Qui s'enferme, médite. Et pour de tels hommes, méditer, c'est préméditer. Quelle pouvait être la préméditation de Louis Bonaparte? Qu'avait-il dans l'esprit? Question que tous s'adressaient. Deux hommes exceptés, Morny, conseiller, Saint-Arnaud, exécuteur. Louis Bonaparte avait la prétention, justifiée, de se connaître en homme. Il s'en piquait, et, à un certain point de vue, il avait raison. D'autres ont la divination, il avait le flair, c'est bestial, mais sûr. Il ne s'était certes point trompé sur Maupas. Pour crocheter la loi, il avait besoin d'une fausse clé. Il prit Maupas. Aucun engin d'effraction ne se serait mieux comporté que Maupas dans la serrure de la Constitution. Il ne se trompa point sur Q.B., Quentin Bochard. Il jugea tout de suite que cet homme grave avait ce qu'il fallait pour être immédiatement un drôle. Et en effet, Q.B., après avoir voté et signé la déchéance à la mairie du 10e arrondissement, fut un des trois rapporteurs des commissions mixtes. Et il a, pour sa part, dans l'abominable total qu'a enregistré l'histoire, 1634 victimes. Louis Bonaparte se trompa quelquefois pourtant, notamment sur Poget. Poget, quoique choisi par lui, resta honnête homme. Louis Bonaparte, craignant les ouvriers de l'imprimerie nationale, et non sans motif, car 12, on l'a vu, furent réfractaires, avait inventé une succursale, en cas, une sorte de sous-imprimerie de l'État, installée rue du Luxembourg, avec presse mécanique et presse à bras, et composée de 8 ouvriers. Il avait donné à Poget la direction de cette imprimerie. Quand vint l'heure du crime, quand il fallut imprimer les affiches scélérates, il sonda Poget et le trouva révolté. Alors il s'adressa à Saint-Georges, meilleur valet. Il se trompa moins, mais enfin il se trompa aussi sur X, quand Robert. Le 2 décembre, X, auxiliaire jugé nécessaire par Morny, fut un des soucis de Louis Bonaparte. X avait 44 ans, aimait les femmes, voulait avancer. De là, peu de scrupules. Il avait débuté en Afrique sous le colonel Combes, dans le 47e de ligne. Il avait été vaillant à Constantine. À Zahatcha, il avait dégagé Herbillon, et le siège, mal commencé par Herbillon, avait été bien fini par lui. X, petit, court, la tête dans les épaules, intrépide, savait admirablement manier une brigade. Son avancement avait eu 4 échelons. D'abord Bugeaud, puis la Mauricière, puis Cavaignac, puis Changarnier. À Paris, en 1851, il vit la Mauricière, qui lui battit froid, et Changarnier, qui le traita mieux. Il sortit de sa torii, indigné. Il criait « Il faut en finir avec ce Louis Bonaparte. Il corrompt l'armée. Ses soldats ivres soulèvent le cœur. Je veux retourner en Afrique. » En octobre, Changarnier baissait et l'enthousiasme de X tombait. X fréquenta alors l'Élysée, mais sans se livrer. Il donna parole au général Bedeau qui comptait sur lui. Le 2 décembre, au point du jour, quelqu'un vint réveiller X. C'était Edgar Ney. X était un point d'appui pour le coup d'État. Mais consentirait-il ? Edgar Ney lui expliqua l'événement et ne le quitta qu'après l'avoir vu sortir à la tête du 1er régiment de la caserne de la rue Verte. X alla prendre position place de la Madeleine. Comme il y arrivait, la Roche-Jacquelin, repoussée de la chambre par les envahisseurs, traversait la place. La Roche-Jacquelin, pas encore bonapartiste, était furieux. Il aperçut X, son ancien camarade de l'école militaire en 1830, qui le tutoyait, alla à lui et lui dit « C'est un acte infâme, que fais-tu ? » « J'attends, » répondit X. La Roche-Jacquelin le quitta. X mit pied à terre et alla voir un parent à lui, conseiller d'État, M. R., M. Rivet, qui demeurait rue de Suresnes. Il lui demanda conseil. M. R., honnête, n'hésita pas. Il répondit « Je vais au Conseil d'État faire mon devoir. C'est un crime. » X hocha la tête et dit « Il faut voir. » Ce « j'attends » et cet « il faut voir » préoccupait Louis Bonaparte. Morny dit « Faisons donner l'escadron volant. »